Sun Radio présente Star Sun. Star Sun.
Salut tout le monde, Arnaud Lee sur Sun Radio et dans votre émission Star Sun. Encore une fois, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec un nouvel invité. Autant vous dire que cette fois-ci, je vais avoir affaire à quelqu'un que je n'attendais pas forcément, et que vous n'attendiez sans doute pas non plus, et pourtant, même si son intérêt pour l'émission se faisait sentir, j'étais loin d'imaginer qu'il serait présent avec moi. Alors un personnage, une figure emblématique de notre milieu cinématographique qui a su, durant toutes ces années, entretenir une image de producteur incontournable au caractère bien trempé, j'ai l'honneur d'accueillir un animal, et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'ours de Baltimore, monsieur Gérard Cousin.
Bonjour à tous, je suis ravi d'être sur Sun Radio.
Bonjour Gérard, et merci d'être en notre compagnie pour ce nouveau numéro.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Alors, pratiquement une trentaine d'années de présence au sein de Gérard Merveille, un chiffre impressionnant à tout point de vue, puisque ce soit en termes de nombre de films, puisque tu dépasses allègrement les 500 films à l'heure actuelle. En termes de récompenses également, puisque 140, ne serait-ce que pour les GM Awards, des franchises également anthologiques. Avec un peu de recul, quel est ton regard sur cette carrière qui a évolué de manière dantesque ?
Je dois avouer que jamais je n'aurais pensé avoir une telle carrière, surtout après Baltimore. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir aussi bien réussir à Gérard Merveille.
Je vais m'attarder un peu sur le passé, notamment Baltimore. Le berceau de l'entité de la GCP Prod, tu réalises tes débuts de manière quasi idéale, on va dire, sans trop de concurrence, jusqu'à l'arrivée de la Morcar Prod. Quel était ton état d'esprit à l'époque ?
Que je voulais lui péter sa gueule ? Voilà, voilà un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'était un peu un poil à gratter dans mon dos. Mais malgré tout, j'ai encore de très bons souvenirs de l'époque.
Alors, tu as un passé sulfureux dont tu ne parles pas souvent, si ce n'est via le documentaire justement de la Morcar Prod, intitulé « Il était une fois Gérard Cousin ». Ton passé, justement, tu as plutôt tendance à le renier ou est-ce qu'il t'inspire ?
Non, je ne le renie pas, mais je vois pas l'intérêt d'en parler, tout simplement.
Alors, j'ai une question un peu curieuse à te poser. Penses-tu que la présence de Nicolas Morcar sur ton chemin était probablement un élément décisif dans ton évolution créative avec une concurrence telle que celle-là ?
Oui, c'est une évidence. Nicolas Morcar m'a poussé dans mes derniers tranchements, on va dire. Et c'est aussi lui qui m'a poussé à venir à Gérard Merveille. Je n'en avais pas envie, j'étais très bien à Baltimore, je faisais pas mal d'argent. Mais c'est vraiment lui qui m'a donné envie de venir à Gérard Merveille. Et c'est donc, si aujourd'hui je casse les couilles à tout le monde, c'est dû à Nicolas Morcar.
Est-ce que tu es un producteur qui reste, on va dire, attaché au passé Baltimore, par exemple ? Est-ce que tu y retournes de temps en temps ?
Non, pas du tout. Baltimore, c'est vraiment une page qui s'est tournée il y a bien longtemps pour moi. Et j'éprouve pas vraiment de la nostalgie de ce qui s'est passé là-bas. Bon, ça s'est passé, et puis voilà. Non, je me pose pas ce genre de questions.
Alors une preuve flagrante de la qualité globale de tes projets de films, c'est entre autres l'aspect graphique de tes affiches via la GCP Arts. Donc une patte reconnaissable entre mille et signe du perfectionnisme que tu entretiens dans tout ce que tu entreprends. Alors c'est cela la ligne de conduite chez la GCP Prod, c'est le perfectionnisme en fait.
Perfectionniste, je dirais pas ça. Mais simplement, les gens qui payent un billet pour aller voir un film, faut essayer de leur en donner pour leur argent. C'est ce que j'essaye de faire. Bien sûr, je les attire en salle avec une belle affiche, à l'ancienne. C'était la technique des producteurs et distributeurs italiens des années 70-80, où l'affiche était magnifique, des fois le film n'était pas super, mais c'était comme ça que ça se passait. Et ça permettait aux gens de venir dans la salle. Bon, moi, en plus, le film, j'essaye à ce qu'il soit de qualité, tout de même.
Alors sinon, ton arrivée dans la cour des grands, on va dire, à Gérard Merveille, s'est fait de quelle manière exactement à l'époque ? Est-ce que l'ours solitaire se sentait en terrain conquis ?
Je vous l'ai dit, je me sens. J'étais content parce que Nicolas Morcar était parti. Et Bon, oui, j'étais bien, je faisais de l'argent à Baltimore, il n'y avait pas de souci. Mais au final, le challenge, il n'était pas là. Il n'y en avait plus de challenge, tout simplement. Donc, voilà, ça, je continuais à faire un peu d'argent, et puis c'est tout. Et il y a un film qui est sorti, qui s'appelait L'attaque des Martiens de l'enfer. Oui, super titre, hein. Qui a attiré l'attention de Nicolas Morcar, et il m'a dit... Pourquoi tu le ferais pas à Gérard Merveille? La ville se porte mieux, il y a plus de producteurs, il y a plus. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter, je vais aller voir, je vais voir s'il y a moyen d'ouvrir une succursale là-bas. Et c'est comme ça que ça a commencé à Gérard Merveille.
Alors très clairement, excuse-moi donc du terme, mais effectivement, tu as la faculté de créer des putains de films pulp, de la trempe justement d'un Quentin Tarantino, plutôt bien inspiré, évidemment, avec très souvent des thèmes que sont la vengeance et la rédemption. Ce sont donc des sujets primordiaux qui t'inspirent, ça aussi?
Je dirais, si ça se rapproche de Tarantino, c'est parce que on puise nos inspirations au même endroit, c'est-à-dire le cinéma d'exploitation des années 60, 70, 80. Surtout, pour moi, c'est surtout italien, le western, les polars, tout ça. Les vigilante movies aussi, hein, les styles Justice dans la ville, Dirty Harry, tout ça. Et c'est vrai que la vengeance et la rédemption sont les thèmes qui reviennent le plus souvent, parce que je trouve, c'est aussi l'inspiration vient aussi des shambara japonais, des films de samouraï, tout ça, parce que justement je trouve que c'est un thème magnifique. La rédemption, on a fait des conneries, et derrière on essaye de rattraper comme on peut. Et la vengeance, quand on a été, je sais pas, blessé, on a envie de se venger, mais même si souvent dans mes films, en fait, cela ne fait que se mettre à la place du bourreau plus que apporter véritablement une délivrance.
Nous allons faire une petite pause musicale pour clore cette première partie. Nous allons écouter donc un titre proposé donc par Gérard Cousin, bien évidemment. Il s'agit du groupe Scorpion et le titre Children of the Revolution, issu donc du film Les Enfants de la Révolution, bien évidemment. Un film d'action sorti le 28 décembre 2030. À tout à l'heure et bonne écoute.
Thank you.
On revient pour cette deuxième partie pour parler un peu plus en profondeur de ta société, donc Gérard Cousin Prod, bien évidemment. Alors pour tout avouer, il a été très compliqué pour moi de faire un petit bilan exhaustif de ta carrière, de s'arrêter sur pas mal de tes créations, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet, de tes initiatives et projets qui ont fait avancer la ville Gérard Merveille et Ciné-Jeux Island tout simplement. Alors ce film justement, Les Enfants de la Révolution, c'est un film marquant pour toi, sachant qu'en fait il regroupe la collaboration de personnes clés dans ta vie, je pense notamment à Maurice de Gira, à Alec Lederman, Manisha Tagor, bien entendu à la production.
Les Enfants de la Révolution, c'est un film qui est marquant pour moi, parce que j'ai réussi à réunir en un seul film plusieurs choses que j'apprécie. Déjà le côté western, ainsi se déroulant pendant, durant l'ère napoléonienne, juste après la Révolution française. Et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement, mais qui n'avait jamais été fait par personne. Donc voilà, j'avais voulu tenter ça, je l'avais réalisé, et ça avait été un très grand succès. D'ailleurs, il est au Hall of Fame.
Alors la famille est quelque chose d'important pour toi, que ce soit dans le privé ou bien dans le domaine professionnel. Comment fais-tu pour gérer les deux aspects justement, sachant que Manisha Tagore est à tes côtés très régulièrement, j'imagine, et vous arrivez à faire la part des choses, sachant qu'elle a une part de responsabilité, somme toute, assez importante au sein de ta société quand même.
Oui, elle a plus qu'une part importante, vu que c'est elle qui gère la société au quotidien. Moi, ça fait longtemps que je la gère plus. Je préfère m'occuper soit de scénario, soit de réalisation, soit de faire l'acteur, comme dans beaucoup de films, sans être crédité la plupart du temps. Mais bien sûr qu'elle est très importante. D'ailleurs, Gérard Cousin Prod ne serait pas la société qu'elle est sans Manisha. C'est devenu un peu l'âme de GCP.
Je reviens maintenant vers ta filmographie assez sidérante, quand même, tout le monde le sait, et les films qui t'ont marqué. Alors ta première franchise, Désolation Jane, sort en 2008, et tu marques d'ores et déjà ton entourage par le fait de créer une héroïne écorchée, un pistolero féminin. Peux-tu nous raconter brièvement ta rencontre avec David Chan, justement, à ce sujet, et penses-tu qu'il est possible de relancer une troisième saga, Désolation Jane, pour les 30 ans d'existence bientôt ? Alors, dans 2 ans, si mes souvenirs sont plutôt bons, avec, Okea Maui, afin de boucler la boucle.
La Désolation de Jane. En fait, ça a été créé, cette franchise, pour... en réaction un petit peu au western, en règle générale. Dans les westerns, les héros sont toujours des hommes. Que ce soit dans les westerns américains ou italiens d'ailleurs. La femme, au mieux c'est une prostituée, ou une victime, ou une fermière, mais certainement pas l'héroïne ni le pistolero. Et je trouvais ça très intéressant, cette approche. Bon, Désolation Jane, ça a surtout été aussi marqué par les affiches. Hein. Les affiches que tout le monde connaît. Quant à David Chan, c'était particulier parce que bon, je l'avais vu travailler un petit peu à l'époque à Hong Kong, mais lui, c'était surtout un challenge. Et puis donner ça à des gens d'horizons différents, ça pouvait aussi améliorer le concept de base. Bon, le résultat, c'est cette franchise. Est-ce que je pense la relancer une troisième fois ? Non, non, parce que je crois que j'ai déjà tout dit. Il y a une histoire, la première série Désolation de Jane couvre du début jusqu'à la fin, jusqu'à Paris, où ça se termine à Paris. Il y a eu une deuxième où là j'étais parti dans d'autres directions, notamment le deuxième où il était question de fantastique horreur, avant de revenir avec un troisième et dernier film. Mais non. Même c'est une franchise que j'aime, c'est un personnage que j'aime, mais non, elle reviendra pas sur les écrans.
Du western, il n'y a donc qu'un pas, et je vais aborder le sujet de Galactic Western, justement, qui est donc une franchise commune, qui a toujours eu un joli succès au sein de la ville, de par son système d'écriture, si je peux dire, dans le sens où il n'y avait pas spécialement de suivi d'un film à l'autre, si ce n'est de respecter un cadre, un univers que tu as mis en place en 2008 également. Avec un peu de recul, est-ce qu'il y a un film qui t'a particulièrement plu, sans parler des tiens, évidemment, est-ce que cette saga, cette franchise commune, a encore de l'avenir selon toi? Et qu'en est-il de ton projet, justement, assez excellent en passant, des Portes de l'Enfer? Pourquoi ne pas, justement, transformer ce projet de série en franchise commune, justement?
Galactic Western, c'était... à la base, je pensais juste que ce serait un one-shot, un film que je ferais, et puis voilà. J'en ai fait une franchise commune, avec plus ou moins de bonheur au travers des années. En fait, le film j'ai refusé des films dans cette franchise, notamment un film de Kuran à l'époque, et puis un autre de Blizzard, qui ne correspondait pas justement à l'esprit de la franchise. Mais j'ai aussi accepté certains projets au sein de la franchise, comme notamment de Well Welling Productions, qui était assez différent de. Mais malgré tout, je trouvais que ça donnait une autre vision de Galactic Western. Parmi les films qui m'ont marqué dans la franchise, notamment celui de Well Welling était pas mal. Bon. Quoique, maintenant que j'y repense, je me demande s'il avait fini par sortir celui-ci. Enfin bon, ce n'est pas grave. Non, alors, Les Portes de l'Enfer, c'était un projet complètement différent. Hein. C'était une sorte de série, un peu genre Master of Horror, mais qui n'a jamais vu le jour, pour la simple raison, c'est que personne n'a été intéressé. Ceux qui ont été intéressés ne m'ont jamais reparlé. Donc voilà. Après, c'était intéressant sur le format série. En version franchise commune, je vois pas vraiment intérêt vu que ce serait des films tous indépendants les uns des autres. Franchement, ça sert à rien de déplacer une franchise commune pour ça.
Alors, la grande force, enfin l'une des grandes forces qui te concerne, c'est cette façon de créer et de s'approprier complètement tous tes projets. Alors, il est assez rare de devoir confier complètement à un artiste maison, par exemple. Comment le ressentent tes artistes chez toi, donc tes artistes maison, justement, avec cette mainmise, entre guillemets, sur leur carrière? Est-ce qu'il y a des tensions au sein de ta société, comme cela a été le cas avec certains producteurs, dans l'utilisation de certains artistes?
Vous savez, je choisis pas n'importe qui. C'est-à-dire que les gens que GCP va promouvoir, ce sont des gens qui, entre guillemets, se coulent dans le moule. Mais au-delà de ça, ce sont surtout des gens qui me font confiance. Et je me dois, de par les moyens de ma société, de les protéger au mieux. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de tension, parce que dans un monde de requins, Gérard Merveille est un monde de requins, hein. La production, le cinéma, c'est un monde de requins. Et bien dans un monde de requins, certains sont heureux de rentrer un petit peu dans la famille. Oui, ça fait un petit peu mafieux dit comme ça. Mais c'est vrai que m'est arrivé d'aider tel ou tel artiste pour des problèmes qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. Mais parce que voilà, une fois qu'on est rentré un peu dans mon cercle, on sait qu'on peut compter sur moi. Donc non, il n'y a pas de tension. Les tensions, elles sont surtout avec les autres producteurs qui ne voient pas les choses de la même manière que moi. Libre à eux, hein, j'essaye pas de les convaincre. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe avec moi.
Alors acteurs, actrices, réalisateurs ou bien scénaristes, les personnages made in GCP Prod sont toutes et tous à leur manière charismatiques, hein, c'est clair. De quelle manière choisis-tu tes artistes ?
J'ai envie de dire, c'est plutôt le feeling. Quand j'en vois certains lors de casting ou que je rencontre qui ont déjà des petites carrières ou tout ça, c'est le feeling, c'est-à-dire comment le courant passe entre nous. Et à partir de là, c'est sûr, c'est comme ça que je travaille. Je me dis pas, oui, celui-ci, je vais en faire une méga star, ou je vais lui faire gagner des méritas, ou il va faire dans des films avec deux awards. Non, non, ça, je m'en fous un petit peu. C'est si la personne que j'ai en face de moi me plaît, a quelque chose de spécial, enfin, en tout cas pour moi, spécial pour moi, j'ai envie de la promouvoir, j'ai envie de l'aider, comme je le peux. Après, c'est pas, je peux pas faire le boulot à leur place, mais j'essaye en tout cas qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles, quand ils travaillent pour moi, mais aussi quand ils travaillent pour les autres, et comme je l'ai dit avant, toujours pour les aider.
En parlant de scénariste, on va parler un peu des collaborations, un style que tu sembles apprécier, plutôt apprécier, même avec la Morcar Prod, donc qui plus est, donc voilà. Alors j'imagine assez facilement que tu restes touché par la disparition de Ralph Fiennes, bien entendu. Peux-tu nous en toucher quelques mots au sujet de son travail au sein de ta société? J'ai vu que le dernier film datait de l'année 2034 avec La Lune Rouge. Quelles étaient vos relations, puisque tu parles dans le film, que tout ne fut pas facile dans cette collaboration, mais elle fut super de bout en bout. Quel personnage était Ralph Fiennes?
Alors Ralph Fiennes, le truc c'est que on a eu des désaccords bien avant qu'il travaille avec moi. On ne voyait pas forcément les choses de la même manière. On était très différents. Et en fait, déjà, j'ai été très étonné quand il était sur le marché des scénaristes un petit peu, et que je lui ai fait une offre, comme beaucoup de sociétés lui en ont fait, et j'ai été très étonné qu'il accepte. On a discuté, je lui ai dit ce que moi je lui proposais, il m'a dit d'accord, on le fait. Et là, j'étais très étonné, parce que je m'étais dit, bon, vu le passif qu'on avait entre nous, bah c'était pas, je pensais pas qu'il allait accepter. Et en fait, ça s'est très bien passé, sauf une fois, notre collaboration, je parle. Ça s'est très bien passé, excepté pour Iron Man, où les choses ont été, sont pas vraiment bien passées, parce que moi, j'attendais, comme dans mes autres adaptations de super-héros, quelque chose de plus original, quelque chose de plus voilà. Et c'était pas du tout le cas avec Iron Man. Je trouvais ça très bien, mais ça correspondait pas à la touche GCP. Et donc bon, on a tourné le film, mais moi je voulais pas le sortir en tant que tel. Je voulais qu'on le remonte, je voulais qu'on peut-être faire des reshoots pour, voilà. Bon, et Raphaël voulait pas. Malheureusement, après, il nous a quittés. À ce moment-là, je me suis dit que bon, le film était comme il le voulait. La moindre des choses, c'était que je le sorte exactement comme lui le souhaitait, parce que les griefs que je pouvais avoir contre le film, au final, ça n'avait plus lieu d'être. Je voulais que les gens voient ce film qu'il avait écrit, un projet auquel il croyait. Et d'ailleurs, oui, il m'avait dit que le temps lui donnera raison par rapport à ma position. Au final, bon, j'aurais préféré que le temps lui donne raison sans tout ça. Oui, La Lune Rouge, autre projet qui lui tenait à cœur. D'ailleurs, c'était lui qui choisissait les artistes, hein. Moi, je lui imposais rien. Je lui proposais quand j'en avais sous la main, mais voilà, c'est lui qui choisissait vraiment. Voilà. Oui, La Lune Rouge, c'est un très très beau projet. C'est un film que j'aime beaucoup. Il suffit de le voir pour comprendre, hein, que Ralph Fiennes était un très, très très bon scénariste. Et oui, il me manque. Je pense que comme il doit manquer à beaucoup de producteurs de Gérard Merveille, de toute façon.
En termes de collaboration, justement, quelles sont celles qui t'ont franchement plu? D'un point de vue du travail collectif, bien entendu, et de l'entente, par exemple. Et à l'inverse, quelles sont celles qui t'ont déçu?
Au niveau des collaborations par Ralph Fiennes, déjà pour commencer, mais Nicolas Morcar, c'est mon meilleur ennemi, mais c'est aussi quelqu'un que je respecte, et avec qui j'aime travailler. Depuis longtemps, on avait même déjà fait des collaborations à Baltimore à l'époque, donc on n'a pas attendu à Gérard Merveille pour faire ça. Mais voilà, c'était avec Nicolas, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Ensuite, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de monde, mais et ça s'est toujours très bien passé. Enfin, à une exception près, hein, le projet Corsica Armata, où on peut le dire, je me suis fait arnaquer, n'ayons pas peur des mots. J'ai payé pour un scénario auprès de Prod Darto. Le scénario était. Voilà. Non, c'était pas montrable en l'état. C'était encore un délire. Bon. Bon, et je l'avais payé. On avait parlé et tout ça. Bon, et finalement, je l'avais jamais sorti parce que justement. J'avais pensé le retaper, mais finalement, je l'avais pas fait. Et quelques années après, Prod Darto revient, ressort le film, sort un film avec ce même scénario, voilà, sans me prévenir, sans me rembourser le moindre cent. Et voilà, bon, bah, ça s'est fini devant les tribunaux, mais bon, j'ai envie de dire, après, c'est pas très très important, mais déçu, oui, bon, sacrément. Alors qu'avec d'autres personnes, pas forcément qui voyaient les choses comme moi, comme par exemple avec Malek ou Assetine, ça s'était très très bien passé. Par contre, c'est sur Big Trouble in Kenya ou un truc comme ça, je crois.
Je disais donc qu'en première partie, plus de 500 films au compteur et une ascension fulgurante avec toujours ce souci du détail, notamment les affiches via les making-of assez bluffants. C'est quelque chose dont tu te sens fier quand tu vois l'évolution de tes affiches?
Oui, parce que moi c'est plus simple d'attirer les gens en salle. Non, plus sérieusement, bien sûr, c'est toujours un plus hein, quand le marketing s'améliore, mais il s'améliore quand les moyens s'améliorent aussi. Donc oui, je suis assez fier. Bien sûr, c'est le travail de toute une équipe, hein, c'est pas moi tout seul qui fais ça. Mais oui, je suis très fier, mais à tous les niveaux, même au niveau scénario, Gérard Cousin Prod est d'un excellent niveau par rapport à ce qu'il était au tout début. Pas forcément plus original, parce qu'on reste un petit peu avec nos lubies, hein, et nos différents scénaristes sont toujours un peu dans cet esprit-là. Mais c'est vrai je suis très fier de ce qu'on a, de ce que j'ai réussi à faire et que maintenant Manisha continue, hein. Comme je l'ai dit, je suis un peu en retrait, mais voilà. Oui, je suis très content de l'évolution de qu'a connue Gérard Cousin Prod et notamment au niveau de la section affiche, section très importante, hein.
Alors en termes justement de fierté, encore une fois, parmi les plus gros succès de la JCP Prod, en termes de projet, lequel tu te sens le plus satisfait finalement?
Je suis un éternel insatisfait. Je pense que le meilleur projet, ce sera toujours le prochain. Bon. Mais non, je suis très content, par exemple, que des franchises très récentes ont vraiment réussi à trouver leur public. Je pense notamment à la franchise Marty Wallace. Ce sont des films que je suis très fier d'avoir produits. Parce que ça rassemble beaucoup d'éléments que j'aime, des ambiances que j'aime. Et en plus, je trouve que c'est assez original comme univers. Donc voilà. Après, ça dépend des périodes, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la filmographie de Gérard Cousin Prod, il y a plusieurs périodes distinctes, avec des hauts et des bas, mais bon, plusieurs périodes et avec des styles, des films qui sont assez différents et des styles assez différents au fur et à mesure que ça fluctue. Bon. Par exemple, je ne fais quasiment plus de films de super-héros. Alors qu'à une époque, j'en faisais beaucoup avec le Gérardverse, tout ça. J'ai fait beaucoup aussi, beaucoup de westerns. Bon, j'en fais plus. J'ai fait des Chambara, j'en fais plus. Voilà, je fais autre chose. Voilà. Donc, ça fluctue. Et je vais pas dire tel film est vraiment le plus gros aboutissement. Non. Non, ça dépend de l'époque. Ça dépend des. Parce que ça dépend des années. Ça dépend, voilà. Donc, en règle générale, J'espère toujours que le prochain sera le meilleur, mais si, quand je regarde derrière, j'ai pas honte du tout des films que j'ai pu produire.
Alors, à titre personnel, c'est vrai que j'ai une attirance toute particulière, et je m'en excuse auprès de nos auditeurs pour cet aparté, mais pour le film, c'est vraiment excellent que je trouve, qui est One Armed Gunman, qui je pense reste mon film préféré dans ta filmographie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
One Armed Gunman, c'est. J'ai vraiment réuni dans ce film plein de choses. Plein de choses que j'aime. Le western, bien sûr, mais aussi le film de sabre, qu'il soit chinois ou japonais, notamment avec ce pistolero manchot qui prend ses racines dans les films de la. Les films de Hong Kong avec genre un seul bras les tue à tous, la rage du tigre, voilà. Où en fait c'est l'histoire de combattants au sabre qui n'ont qu'un seul bras. Mais au-delà de ça, c'est dans ces films-là, il y a toujours un fond et un message par rapport au fait que oui, ils sont handicapés, mais en fait, il faut voir ce qu'il y a derrière. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de transposer. Alors, en fait, One Armed Gunman, c'est un remake. Hein. C'est un remake d'un film que j'avais fait au tout début, où j'étais arrivé à Gérard Merveille, qui s'appelait Le Pistolet de la Vengeance. Et c'est un film... One Armed Gunman vient de très très loin. Hein. Parce que bon, il suffit de voir le film. C'est un western bas de gamme, hein, Le Pistolet de la Vengeance. Bon, vraiment... pas très très bon hein, si on regarde avec le recul. Et je ne parlerai pas de l'affiche qui est digne d'une bouse placardée sur un mur. Bon, donc avec Maurizio, on avait décidé de faire un remake de ce film parce qu'il y avait un potentiel. Et donc on l'a fait et on a vraiment essayé d'aller au bout de ce qu'on pouvait faire avec cette histoire, une histoire de rédemption avec Django, mon personnage mythique, hein, en référence et en hommage au Django de Sergio Corbucci, bien sûr, qui est l'un de mes, si ce n'est mon western préféré. Et voilà, One Armed Gunman, c'est ça. Et aussi, tout tourne autour d'une idée, c'est-à-dire qu'on peut être un salaud à une époque et devenir quelqu'un de bon, et être quelqu'un de bon à une époque et devenir un salaud. Tout tourne autour de ça dans One Armed Gunman, entre le criminel qui est un héros de la guerre, qui a sauvé des esclaves et tout, qui est quelqu'un de respecté, qui en fait s'avère être aussi un violeur et un criminel, alors que et qui a battu et laissé pour mort et tranché le bras d'un ex-esclave. Alors que Django, qui était un chasseur d'esclaves avant, qui a attrapé des esclaves en fuite pour les livrer à leur maître, décide de sauver cet homme noir qui croise sa route. Le sauver parce que... Parce que c'est la bonne chose à faire. Et je trouvais ça très intéressant. C'était un peu esquissé dans le pistolet de la vengeance, mais c'était vraiment esquissé, justement, et ça n'avait pas de fond. Là, je trouvais très intéressant cette idée de confronter le présent et le passé des personnages pour donner une histoire où il n'y a pas de bon. Il n'y a que des gens qui essayent soit de gagner leur rédemption, soit... à cause de ce qu'ils ont fait avant, ils estiment qu'ils peuvent tout faire désormais. Voilà. Et oui, c'est un très beau film qui dépasse le simple cadre du western ou de l'action. Mais après un tel film ou Blind Vengeance, mon dernier western en date, que voilà, un autre film que j'aime beaucoup parce que pareil, on aborde beaucoup de choses. C'est, je vois pas, j'ai pas vraiment l'envie de faire d'autres westerns pour l'instant, parce que When Armed Gunman et Blind Vengeance sont pour moi ce que j'ai réussi de mieux en western. Réussir à avoir le fond et la forme, voilà, Je vois pas. Par exemple, vous me parliez de désolation de gènes, refaire un désolation de gènes derrière, honnêtement, je vois pas l'intérêt.
On va se projeter un petit peu maintenant, en imaginant quelques secondes ta retraite au sein de cette ville. Alors, qui verrais-tu pour une éventuelle succession, ton fils Liam, que l'on a vu encore récemment dans Zero Bloodline, ou ta fille Amiya, peut-être?
Damia est un petit peu jeune quand même, hein, pour l'instant. Non, Nilam serait un candidat excellent, parce que voilà, c'est le digne fils de ses parents. Mais Manisha va rester à la tête de de Gérard Cousin Prod pendant encore un petit moment. Et puis il faut pas oublier qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. Mais bon, voilà, je ne me projette pas si loin. Et puis de toute façon, déjà, je suis quasiment à la retraite. Je m'occupe plus, je vous l'ai dit, de la société au jour le jour. Je me fais plaisir, j'écris, je fais l'acteur, je traîne sur les plateaux, voilà. En fait, j'ai le meilleur des deux mondes. Je me tracasse pas de la société, et pourtant, elle fonctionne, et on fait des films, et puis voilà.
Voilà, donc on arrive quasiment à la fin de l'émission. J'ai encore une question un peu bateau à te poser, et que je pose pour chaque producteur. Où en es-tu actuellement vis-à-vis de ta société? La motivation est-elle toujours là, sachant que tu avais eu un gros coup de mou, entre guillemets, en 2031? Et surtout, comment vois-tu ton avenir d'ici quelques années? Quels sont tes projets?
Le coup de mou était dû à des raisons de santé, mais bon, je n'ai pas envie d'en parler. Mais non, j'ai toujours la motivation. Il y a toujours la société continue à bien marcher. On fait des films qui fonctionnent très bien, hein. Notamment, je parlais de Blind Vengeance, hein, mais on a eu aussi on a la trilogie Zéro. La trilogie Zéro, je suis très content. Je suis très content parce que. Et puis là, va y avoir le troisième. L'année prochaine, il y a le troisième et dernier volet qui va sortir. En espérant qu'il plaira autant que les deux premiers. Même si le deuxième avait un petit peu moins plu que le premier. Dans l'ensemble, c'était très positif. Après. On essaye toujours d'aller dans d'autres directions de toute façon. Bon, c'est ça aussi l'intérêt. Si je faisais encore des films de super-héros, je crois que j'ai tout dit, hein, quasiment. Donc voilà. Par contre, on va continuer aussi The Samurai, qui est une franchise que j'aime beaucoup aussi. Pareil, mais c'est sur le long terme, hein, parce que les histoires qu'on développe, notamment dans The Samurai, on est à la deuxième période là. Il reste un film qui, voilà, peut-être sortira cette année. Il faut toujours du temps, parce que j'aime bien respecter un petit peu la chronologie. C'est-à-dire une année réelle, c'est une année au cinéma. Et je trouve ça très intéressant de suivre l'évolution de personnages, d'histoires, sur la longue durée. Donc voilà. Et puis on a quand même des franchises. Voilà. Marty Wallace, qui marche très très bien. Et là, on va d'ailleurs. Travaille sur une collaboration avec Le Corbeau pour un crossover entre Marty Wallace et Nicéphore Arbogast. Donc, c'est vraiment un super projet. Et voilà.
Donc une émission bien entendu plus longue, vous avez pu le constater, donc avec Gérard Cousin, parce que bon ben voilà, c'est un grand monsieur, un grand producteur de cette ville, donc qui nous a fait l'honneur de répondre à mes questions, et je l'en remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Bon, j'accepte très peu d'interviews de toute façon parce que c'est un exercice que j'apprécie pas outre mesure. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop ça, hein, ce qui m'a causé quelques problèmes, hein, dans le métier. Mais bon, j'ai été très content de faire cette émission, en plus sur Sun Radio, hein, de mon ami Jerry Mendoza. Voilà. Très content d'avoir participé et d'avoir pu répondre à vos questions.
Merci encore, Gérard Cousin, d'avoir répondu à mes questions. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Starzone. Allez, ciao!
Au revoir à tous.